Interview.
2 jours.
Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Laureline Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Laureline Fontaine, il y a une parution qui s'intitule « La Constitution maltraitée » aux éditions Amsterdam. En sous-titre, « Anatomie du Conseil constitutionnel ». Tu présenteras d'ailleurs ce livre à la librairie Mosaïque. Quelle date précisément ?
Le samedi 25 mars, à partir de 18h.
Cette constitution maltraitée, c'est une réflexion sur la constitution française et particulièrement sur le Conseil constitutionnel qui, à tes yeux, ne semble pas être impartial en quelque sorte.
Alors c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, cet ouvrage a une longue histoire puisque j'ai déjà écrit sur le Conseil constitutionnel, mais c'était des publications qu'on va appeler confidentielles, dans le milieu dans lequel j'évolue le plus souvent, c'est-à-dire le milieu d'université. Et il se trouve que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est quand même assez au courant des défauts, des anomalies même qui affectent cette institution. Et donc, il m'a été, on va dire, fortement suggéré d'écrire un ouvrage à destination de tous, hein, parce que voilà, les éditions Amsterdam publient des ouvrages qui, en général, s'adressent à tous, sur des sujets souvent d'intérêt public. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans cet ouvrage. Alors, l'idée, quand même, c'est que on a un système politique dont l'ambition est de produire des lois qui vont, on va dire, coordonner la vie en société en fonction des principes que l'on estime à un moment donné les meilleurs pour cette vie en société. Et dans ce système politique, donc, il y a des acteurs que l'on connaît, qui sont le président de la République, le gouvernement, le Parlement, hein, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et on oublie un peu facilement un dernier acteur qui est le Conseil constitutionnel, qui a pourtant un rôle déterminant dans la fabrication de ces lois, puisqu'il intervient à la fin, parfois même plusieurs années après la production de la loi, pour dire si la loi, elle est bien conforme ou au contraire, contraire justement à la Constitution. Et dans l'hypothèse où il déclare que la loi est contraire, eh bien dans ce cas, eh bien la loi ne peut plus s'appliquer dans l'ordre juridique. Donc c'est un pouvoir très important, un pouvoir de censure de la loi, mais qu'il ne faut pas, à mon avis, et c'est une chose assez importante que je voudrais préciser, qu'il ne faut pas comprendre comme un pouvoir autoritaire d'intervention sur ce qu'aurait décidé la volonté générale. C'est un pouvoir, c'est un contre-pouvoir, en ce sens que, à un moment donné, on a estimé que la loi, le législateur, ne pouvait pas dire n'importe quoi. Et qu'il devait être limité par ce que dit la Constitution, qui est un acte qui se trouve au-dessus de la loi. Et c'est le Conseil qui est chargé de vérifier, effectivement, que ce que dit la Constitution est bien respecté par la loi, par le législateur. Donc, ce n'est pas un véritable, contrairement à ce que j'entends souvent, un véritable pouvoir de faire la loi, c'est un pouvoir de dire ce que ne peut pas faire la loi en vertu de principes qui sont supérieurs à la loi. À partir du moment où l'on sait que dans l'exercice de cette mission, eh bien, le Conseil ne fonctionne pas de manière très bonne, qu'il est, on va en reparler, j'imagine, qu'il n'est pas indépendant, qu'il n'est pas impartial, qu'il est très loyal à l'égard du pouvoir politique, qu'il ne se voit pas appliquer de règles de déontologie, qu'il est soumis à des influences diverses, du type des influences des lobbies économiques, eh bien, il m'est apparu qu'il était effectivement nécessaire de mettre ça sur la place publique.
La constitution maltraitée, cette maltraitance, comment peut-on la définir ? On connaît la maltraitance envers l'humain, mais sur une idée, comment peut-on amener cette notion ?
Oui, l'idée de ce titre est venue par le constat que le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de dire ce qu'il y a dans la Constitution et de l'opposer, s'il y a lieu, à ce que dit le législateur. Le principe est simple. Si le législateur porte atteinte au principe d'égalité, alors que celui-ci est inscrit dans la Constitution, alors le Conseil constitutionnel doit dire que la loi ne respecte pas la Constitution. Donc c'est ça son rôle. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on lit ce qu'il y a dans la Constitution, en fait c'est un ensemble de textes, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est le préambule de la Constitution précédente de 1946, qui était issu du programme du Conseil national de la Résistance, et c'est le texte qui a été adopté en 1958. Et puis, d'autres textes sont ajoutés aussi parce que, par exemple, figure aujourd'hui la Charte de l'environnement, qui est aussi un texte à valeur constitutionnelle. Mais lorsqu'on lit ces textes, on se retrouve parfois devant des interrogations immenses sur la signification. Par exemple, l'article 1er de la Constitution dit que la République française, alors, est une république laïque, mais c'est aussi une république sociale. Toute la question, c'est qu'est-ce que ça signifie, une république sociale ? Qu'est-ce que ça signifie, une république laïque ? Et puis, on peut aller plus loin dans cet article premier qui dit aussi que la république est une et indivisible. Qu'est-ce que ça veut dire, une république une et indivisible ? Donc, le travail du Conseil constitutionnel ne consiste pas uniquement à répéter ce que dit la Constitution. Il consiste à essayer d'en chercher le sens, l'esprit même, la philosophie profonde, et de confronter cette philosophie à ce que dit le législateur dans des situations précises. Alors, je peux prendre un exemple. Lorsque le législateur interdit le port du voile à l'école, en quoi est-ce que ça satisfait ou non l'idée de république laïque ? C'est important parce que, on le sait, il y a deux manières d'envisager la laïcité. Il y a ce qu'on appelle une laïcité ouverte et une laïcité fermée. La laïcité ouverte consiste à dire qu'il est important que toutes les religions puissent s'exprimer sans être discriminées. Et la laïcité fermée dit au contraire qu'il y a, au moins dans l'espace public, une obligation de neutralité de tous vis-à-vis de la religion. Donc ce sont deux conceptions différentes, mais qui ne sont pas indiquées dans la Constitution. Et ça vaut pour presque tous les principes. À partir de là, le travail du Conseil constitutionnel, comme c'est le travail de n'importe quelle cour constitutionnelle, ou n'importe quelle cour suprême qui existe ailleurs dans d'autres pays, aux États-Unis, peut-être qu'on en parlera, en Italie, en Allemagne. En réalité, dans presque tous les pays, il existe aujourd'hui une cour constitutionnelle ou une cour suprême dont le rôle est de confronter la loi avec la Constitution et d'empêcher que les lois contraires à la Constitution ne puissent prospérer dans l'ordre juridique. Mais pour faire ce travail, je vais dire plutôt, ce travail n'est pas un travail d'improvisation. C'est un travail de connaissance. Si je poursuis sur l'exemple de la laïcité, ce travail consiste à faire le tour des différentes conceptions de la laïcité de manière non superficielle, à comprendre les enjeux de ces différentes conceptions de la laïcité, à les confronter à ce que a voulu ou a peut-être voulu le constituant, c'est-à-dire celui qui a rédigé la Constitution lorsqu'il l'a rédigée, à le confronter à l'histoire. Et certains juges le font lorsque, par exemple, le juge européen des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, est amenée à se prononcer sur la loi française, eh bien, elle s'intéresse à toute l'histoire de la laïcité en France pour essayer d'en tirer une sorte de philosophie générale de la laïcité qui va faire qu'elle va estimer que la loi est conforme ou non, alors cette fois pas à la Constitution, mais à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est un travail qui ne s'improvise pas, qui est très long, qui est sérieux, qui nécessite à la fois un investissement et qui nécessite aussi une exposition. J'entends on ne peut évidemment pas admettre de la part d'une instance, comme l'est le Conseil constitutionnel, en tout cas de la part d'une cour constitutionnelle, qu'elle fasse ce travail en toute opacité, derrière des murs feutrés, ou quelquefois on dit derrière les ors de la République, sans nous faire part de comment elle fait ce travail, et sans nous faire part des raisons pour lesquelles, à un moment donné, elle décide dans un sens ou dans un autre. Sinon, si elle ne procède pas de cette manière-là, et si elle est amenée, cette Cour constitutionnelle, à, on va dire, à prétendre de manière assez autoritaire que la Constitution dit ceci ou dit cela lorsque ça n'est pas du tout évident, eh bien, on peut conclure, en quelque sorte, qu'elle maltraite la Constitution dans deux sens. À la fois parce qu'elle ne procède pas au travail que la Constitution mérite, et en ce sens que, précisément, elle ne joue pas le rôle que lui a donné la Constitution. C'est ce que je démontre à propos du Conseil constitutionnel, c'est que, eh bien, il ne fait pas le travail qu'il devrait faire en tant qu'il se prétend aussi une cour constitutionnelle. Et ça, c'est aussi une chose importante, parce que je vois parfois comme remarque que le Conseil n'a pas été conçu en 1958 pour faire ce travail. Et c'est pas faux. Il n'a pas été vraiment conçu pour exercer un travail, pour faire un travail approfondi autour de l'interprétation de la Constitution. Mais depuis 1958, de l'eau a coulé sous les ponts, et surtout, on s'est inscrit dans, on va dire, dans une notion de la démocratie qui ne nous est pas propre à la France, mais qui est plus générale, qui est plus européenne, voire plus, alors je ne vais pas dire mondiale, mais enfin, en tout cas qui s'est étendue à beaucoup d'endroits de la planète, où on dit que, eh bien, il faut, dans l'exercice du pouvoir, qu'il y ait un contre-pouvoir qui puisse opposer donc à la majorité politique, qui n'est qu'une majorité du moment, eh bien une parole plus constante, une parole plus importante, plus fondamentale, qui est celle de la Constitution. Et on a confié ce rôle de contre-pouvoir à des cours constitutionnelles ou à des cours suprêmes qui ont parfois elles-mêmes pris ce pouvoir. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel, il s'est présenté dans ce mouvement-là. Il a dit, moi aussi, je prends le train des cours constitutionnelles, et donc je vais m'affirmer comme le gardien de la Constitution, le gardien des droits, le gardien des libertés, et donc je vais devenir un véritable contre-pouvoir. Le problème, c'est que ça n'est pas le cas. Il n'exerçait pas un véritable contre-pouvoir, même s'il en a en réalité les attributs. Il pourrait l'être, mais il ne l'exerce pas.
Avec naïveté, je pensais que liberté, égalité, fraternité étant la devise de la République, que c'était aussi ces trois mots étaient aussi un référent pour ce Conseil constitutionnel par rapport à l'examen des lois qui sont proposées à l'étude ou à l'approbation. Est-ce que, justement, à l'heure actuelle, cette notion de liberté, égalité, fraternité est prise en compte, justement, par le pouvoir actuel?
Alors, par le pouvoir ou par le Conseil constitutionnel?
Alors, par le pouvoir, mais on sait bien que, mis à part quelques articles censurés, toutes les lois qui sont passées ces derniers temps ont eu l'aval du Conseil constitutionnel.
Voilà. Alors, ça, c'est une... Je pense que c'est une... Alors, c'est la dernière partie de mon livre. Mais je me demande si ça n'est pas l'une des parties les plus importantes. En réalité, dans tous les premiers chapitres, je démontre en quoi le Conseil n'est pas indépendant, en quoi il n'est pas impartial, en quoi il n'est pas déontologique, etc. Et je pense que c'est fondamental de démontrer ça, alors que le Conseil s'affiche comme le gardien de la Constitution. Je rappelle, la presse appelle les membres du Conseil constitutionnel les sages. Il ne mérite absolument pas ce titre au regard de tous les défauts qui les affectent. C'est vraiment une vraie problématique. Ça, c'est aussi peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre. Dès l'introduction, je parle de paresse intellectuelle, de la paresse qu'il y a à parler du Conseil constitutionnel en termes de sage, parce que ça évite d'aller gratter un petit peu plus et ça donne l'illusion qu'il y a un véritable contre-pouvoir. Et quand cette illusion est entretenue, eh bien, ça veut dire que on va se dire « Ah ben, les lois ne sont pas si mauvaises, au sens, eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec les lois, mais nous ne pouvons pas dire qu'elles ne sont pas constitutionnelles. » Donc, et j'en viens à ta question, on ne peut pas dire qu'elles ne respectent pas le principe d'égalité, le principe de liberté, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, le travail du Conseil constitutionnel est très faible. Et c'est un travail d'interprétation. Alors, à partir de là, j'ai pu constater, je dis « je », mais en réalité, nous sommes très nombreux à l'avoir fait. Il y a pas mal d'écrits sur ce sujet depuis quelques années qui montrent que le Conseil a choisi une partie de la Constitution et qu'il en a délaissé une autre. La partie qu'il a délaissée, elle n'est pas mineure. Le Conseil ne parle jamais, dans sa jurisprudence, du fait que la France est une république sociale. Il ne s'est jamais appuyé sur la disposition de l'article 1er qui dit que la France est une république sociale pour contrôler une loi, soit pour la valider, soit pour la censurer. Le Conseil semble, de la même manière, avoir globalement oublié qu'il y avait des dispositions dans le préambule de la Constitution de 1946 qui faisaient que l'économie pouvait, selon la Constitution, n'être pas seulement néolibérale, mais parfaitement sociale. Et le Conseil néglige cet aspect-là. Et pour le coup, à l'inverse, il censure souvent les lois au motif qu'elles portent atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle, qui, je le précise, ne figure pas explicitement dans le texte constitutionnel, c'est-à-dire que dans les textes qui ont une valeur constitutionnelle et auxquels le Conseil peut se référer, il n'est pas fait expressément mention de ces libertés, mais il les rattache, par tradition, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été suivie en 1789 de plusieurs textes importants sur, effectivement, la question de la liberté du commerce. Et du coup, le Conseil valorise, voire survalorise ces dispositions-là pour censurer les dispositifs qui pourraient porter un frein, qui pourraient mettre un frein, parfois, à la libre concurrence. Là où, bien sûr, il ne censure pas les lois qui mettent un frein aux libertés individuelles ou collectives. Et c'est quand même ça qui est très important. Alors, lorsque le législateur a l'idée, saugrenue apparemment pour le Conseil constitutionnel, de lutter contre la fraude fiscale ou contre l'évasion fiscale, et donc créer des dispositifs qui forcément vont contraindre des entreprises, eh bien, le Conseil censure pour dire non, c'est une atteinte trop importante à la liberté d'entreprendre. Alors que d'un autre côté, lorsque le législateur veut lutter, par exemple, contre l'immigration clandestine ou la propagation d'un virus et qu'il porte atteinte directement et de manière assez importante à des libertés individuelles ou collectives, là, le Conseil dit oui. Donc, il y a de toute évidence une disproportion qui s'est accentuée au fil des années dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, donc en faveur des libertés économiques, le conduisant à neutraliser, en quelque sorte, les dispositions sociales de la Constitution. Alors, ça ne veut pas dire que, de temps en temps, il ne fait pas un petit coup de publicité. Par exemple, il y a deux ou trois ans, alors je n'ai plus les dates exactes en tête, mais il a ressorti pour la première fois le principe de fraternité. Et il s'est appuyé sur ce principe pour censurer la loi qui faisait de l'aide aux personnes en situation irrégulière sur le territoire un délit. Et il a censuré de cette disposition au nom de la fraternité. Alors, c'était une décision intéressante, mais c'est ce que j'appelle vraiment les décisions cosmétiques du Conseil constitutionnel. Bien sûr que c'est une bonne décision sur le fond. On comprend bien l'inanité qu'il y avait à censurer l'aide spontanée apportée par des individus à d'autres individus en grande difficulté. Le Conseil a censuré. Mais si on y regarde un peu de plus près, si on s'intéresse vraiment à la portée de cette disposition, de cette censure, d'abord, elle est symboliquement importante, mais elle ne touchait pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que très peu de gens étaient touchés par ce délit, parce que la réalité déjà, c'est qu'il y avait très peu de poursuites sur le fondement de ce délit, qu'on appliquait très peu la disposition, parce que beaucoup d'autorités, évidemment, la trouvaient en elle-même inique. Donc elle n'était pas beaucoup appliquée, et j'allais dire que le Conseil, s'il fait bien, il arrive un peu après la bataille. On ne peut pas dire la même chose de toutes les dispositions législatives qu'il ne censure pas, qui donnent en quelque sorte des pouvoirs assez exorbitants aux entreprises, et qui, elles, ont un impact très important sur la vie du pays et sur la vie des gens. Donc, c'est aussi la difficulté, c'est une difficulté que je souligne dans mon livre, c'est de regarder parfois, j'allais dire, l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, voilà, dans les censures que le Conseil est amené à prononcer ne sont pas toutes visibles, mais on doit aussi voir toutes les censures qu'il ne prononce pas. C'est-à-dire tous les dispositifs législatifs depuis des années qui sont adoptés et qui vont en faveur des entreprises et qui ne censurent et qui sont contre les droits et libertés individuelles et qui ne censurent pas, eh bien c'est important, voire encore plus important que ce qu'ils censurent.
Madame Borne a donc déposé sa responsabilité par rapport à ce projet de loi avec l'article 49.3. Le résultat, on le connaîtra lundi. Cette émission étant enregistrée samedi après-midi, donc 2 jours avant, on pourrait peut-être envisager les 2 cas de figure de ce qui pourrait se produire. Premièrement, le 49.3 en quelque sorte torpillé par les motions de censure. Et dans ce cas-là, on pense que le gouvernement devra démissionner, en principe. Et puis, sinon, si la loi passe, il y a encore la possibilité de la saisine auprès du Conseil constitutionnel. Ce que j'ai appris dans le livre, d'ailleurs, c'est que face au Conseil constitutionnel, seul le gouvernement est présent pour défendre son texte. Donc il n'y a pas, en quelque sorte, de pare-feu ou de garde-fou face au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, ces auditions, est-ce qu'elles se pratiquent en huis clos?
Oui, alors, donc sur le 49.3, tu as dit en effet qu'il y avait 2 possibilités, soit la motion de censure, une motion de censure est adoptée contre le gouvernement et oblige celui-ci à démissionner et fait tomber en quelque sorte le projet de loi. C'est-à-dire que pour que le projet de loi soit adopté, il faut recommencer toute la procédure. Alors, je précise que, donc aujourd'hui on est samedi, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne connaît pas les tractations qui vont avoir lieu entre les différentes forces au Parlement pour parvenir ou non à l'adoption d'une motion de censure. On ne connaît pas non plus l'état de la situation sociale dans le pays d'ici là. Ça bouge un peu, mais finalement moyennement. Donc c'est un peu difficile de se prononcer. Quoi qu'il arrive, si la motion est adoptée, le gouvernement a l'obligation constitutionnelle de démissionner, mais le président n'a pas l'obligation constitutionnelle de nommer un gouvernement différent. C'est-à-dire qu'il peut tout à fait choisir de renommer exactement le même gouvernement. Ce n'est vraiment pas incompatible. Mais en tout cas, la loi ne sera pas adoptée dans ces cas-là. Et donc, il faut recommencer toute la procédure. Si, à l'inverse, la motion n'est pas adoptée, C'est difficile de se prononcer toujours avant. Aujourd'hui, samedi, on peut dire que c'est pour l'instant l'hypothèse la plus probable. Elle n'est pas définitive. Mais si la motion n'est pas adoptée, dans ce cas-là, c'est la loi qui est considérée comme adoptée sans vote positif de la part de l'Assemblée nationale. Et comme elle a déjà été votée par le Sénat, eh bien donc elle sera définitivement adoptée. Alors, quel recours reste-t-il ? Alors, il y a le recours, on va dire le recours social type CPE. Hein, c'est-à-dire que on se souvient que la loi sur le contrat première embauche, qui avait été adoptée par le biais d'un 49-3, le seul d'ailleurs utilisé par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, donc avait été adoptée, sans vote également, et que face à la mobilisation sociale très importante, eh bien, de manière un peu inédite, le président de la République a déclaré qu'il ne promulguerait pas la loi qui a été adoptée et que donc celle-ci ne pourrait pas être appliquée. Donc c'est quelque chose qui avait, entre guillemets, fonctionné à l'époque. La mobilisation sociale avait fait reculer la majorité de l'époque qui, malgré l'adoption de la loi, eh bien, n'avait pas fait appliquer la loi. Celle-ci était restée lettre morte à l'État, juste de projet adopté, sans être promulguée. Puisque pour qu'une loi soit appliquée, il faut qu'elle soit promulguée officiellement par le président de la République au journal officiel. Soit, donc, il y a ce recours auprès du Conseil constitutionnel. Et mon livre est là pour dire qu'il ne faut pas considérer ce recours comme un recours providentiel. Tu l'as rappelé tout à l'heure, on ne peut pas dire depuis tant d'années que toutes les régressions sociales que nous avons connues, les lois Macron, la loi M. Khomri, etc., aient été freinées par le Conseil constitutionnel. Bien sûr que non. Pourrait-elle l'être à présent ? Alors évidemment, on ne peut que le souhaiter si on est défavorable au projet de loi. Ne pas le souhaiter si on est favorable, mais quoi qu'il en soit, on peut, en vertu, on va dire, du passé et du présent du Conseil constitutionnel, on peut, d'une certaine manière, moi qui n'aime pas ça normalement, mais on peut un peu prophétiser que le contrôle qu'il effectuera sur le projet, à la fois sur la procédure qui a été utilisée, parce que bon, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail là-dessus, mais pour le coup, je peux renvoyer à la petite vidéo qui a été diffusée sur YouTube depuis hier par Mediapart, qui dure 4 minutes 15, où j'explicite un peu cette question de la procédure qui a été utilisée pour faire adopter la réforme des retraites, à savoir l'article 47.1. Donc, à la fois sur la procédure et sur le contenu, il faudrait que le Conseil procède à un travail véritable, approfondi de lecture de la Constitution, de compréhension et d'explicitation de la philosophie de la Constitution, et notamment de cet article 47.1, précisément, il fasse l'effort de dire que la question de l'âge légal de la retraite, ça n'est pas une pure question comptable, mais que c'est bien, je pense que tout le monde le comprend de manière, pour le coup, très aisée. C'est une question de société qui est fondamentale. Dire jusqu'à quel âge les personnes vont travailler obligatoirement avant de percevoir une retraite est une question de société et pas seulement une question comptable. Parce que si on ne peut pas financer cet âge légal à 62 ans exclusivement par la voie de la répartition, comme c'est le cas actuellement. Bon, je précise qu'il y a plein de personnes qui disent que pour l'instant, il n'y a absolument pas péril en la demeure là-dessus. Mais admettons qu'on ne puisse effectivement pas, de manière pérenne, financer la retraite à partir de 70 ans par le simple système de répartition. Eh bien, je suis très claire là-dessus. Rien n'interdit, mais absolument rien dans la Constitution n'interdit de trouver des financements autrement, c'est-à-dire de trouver ailleurs l'argent pour financer ces retraites. Donc, ça n'est pas simplement une question de financement de la sécurité sociale. Et en voulant faire croire ça, en réduisant l'âge légal de la retraite à une question comptable, eh bien forcément, on passe à côté d'un débat de société extrêmement important. C'est le rôle du Conseil constitutionnel que de rappeler une chose aussi élémentaire. Élémentaire. Le fera-t-il ? Je ne peux pas le dire. Je peux juste présumer qu'il ne le fera pas. Évidemment, il pourrait, ça serait intéressant qu'il me contredise, mais il est fort probable qu'il ne le fera pas. Ensuite, sur le fond, on est bien d'accord pour dire que 62 ou 64 ans, c'est évidemment pas une question qui se résume à c'est conforme ou c'est non conforme à la Constitution. Tout va dépendre de comment on entend la République sociale. Qu'est-ce qu'une République sociale au regard, évidemment, des conditions de vie en société, au regard des conditions de travail, au regard... On ne peut pas trancher très facilement. Et c'est bien ce que je reproche au Conseil constitutionnel, c'est de ne jamais avoir de discussion approfondie sur cette question et sincère, ouverte, opaque, ce qui est évidemment tout le contraire de ce qui se passe actuellement. On a quand même beaucoup souligné l'absence d'insincérité des débats. Le projet qui a été soumis au Parlement n'est pratiquement pas explicité par le gouvernement. On connaît le fameux chiffre sur les 1200 euros. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas d'où ce chiffre sort. On n'a aucun élément pour ça, donc c'est insincère. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est d'être sincère dans sa recherche. Je pense qu'il ne le sera pas. Et si il nous fait l'aumône d'une censure, par exemple celle qui consisterait à dire que l'obligation pour les entreprises de tenir un registre en quelque sorte sur l'emploi des seniors, eh bien, n'est pas conforme à la Constitution. Alors, pas en tant que telle, mais uniquement parce que ça n'a pas de rapport direct avec le financement de la sécurité sociale. Bon, ben, il pourra toujours le faire. Ça ne changera rien à ce qui est en train de se passer, à savoir qu'il n'empêche qu'il y a suppression de régimes spéciaux, il y a changement dans le système de répartition et il y a élévation de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. Donc, j'ai crainte que ce recours providentiel au Conseil constitutionnel soit, encore une fois, un pur fantasme, une pure illusion, et c'est réellement pour ça que j'ai écrit ce livre.
Par rapport à cette proposition de loi sur la réforme des retraites, c'est aussi, vis-à-vis de l'Europe, une mise en conformité financière. Je crois que c'est par rapport au pourcentage de la dette française. Et donc, la présidence de la République a opté justement de pallier ce déficit en faisant contribuer la population. Et donc, d'où découle cette réforme des retraites, si j'ai bien compris. Si je me trompe, tu me le diras. Mais contrairement... Et là où on peut regretter, c'est que c'est uniquement la population qui est mise à contribution et non les entreprises qui sont largement bénéficiaires. Et je voulais savoir, justement, et ça amène aussi sur cette idée de la propriété du commerce, cette constitution qui est dans l'article 2, est-ce que justement le Conseil constitutionnel est aussi partie prenante dans cet aspect, comme tu disais aussi avec ses lobbies, ses influences économiques auprès du Conseil constitutionnel, quelle solution pourrait-on voir ?
Tout ça est lié, comme on le disait, si le Conseil est exclusivement composé ou presque exclusivement de personnalités qui ont une longue carrière politique, c'est que ça le conduit à avoir lui-même une réflexion, on va dire, en connexion avec la politique qui est menée. C'est-à-dire que si on réfléchit, ceux qui sont aujourd'hui au Conseil constitutionnel sont les mêmes qui font la politique depuis une trentaine d'années, depuis 30 à 40 ans. Depuis 30 à 40 ans, on a effectivement assisté à une inflexion de la volonté politique par rapport au fonctionnement de l'économie. je pense que, là encore, c'est très largement documenté. Hein, il n'y a absolument aucun scoop à ce sujet. Mais, en tout cas, tous les partis de gouvernement ont été dans ce sens. Le Parti socialiste, en particulier, a été souvent accusé de trahison par rapport à ses origines. Mais, on va dire, le fruit, c'est... Enfin, le gouvernement d'aujourd'hui est le fruit de cette transformation de l'ensemble des partis du gouvernement jusqu'à la gauche. Et donc, nécessairement, il y a une manière de penser les choses. Aujourd'hui, il y a une manière de penser l'action politique et donc la fabrication des lois qui est adossée à une manière de comprendre le rôle de l'économie dans l'espace social. Donc, nécessairement, on ne peut pas compter sur le Conseil constitutionnel, qui est simplement une annexe du pouvoir, pour penser autrement. Il va pouvoir presque soutenir, j'allais dire légitimement, que la Constitution de 1958, même avec ses dispositions sociales, eh bien, ne peut plus être comprise de la même manière en 2023 qu'elle pouvait l'être en 1958. À certains égards, cette thèse est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est de soutenir que l'évolution de l'interprétation de la Constitution était forcément celle qui a lieu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être matière à interpréter les choses autrement, tout en étant en lien avec les évolutions du corps social et avec les évolutions du choses. Donc, il y a une thèse que je soutiens par ailleurs, que j'esquisse un peu à la fin du livre, mais qui n'est pas l'objet du livre et sur laquelle je dois encore écrire, mais dont je t'avais déjà parlé dans ce studio. C'est la question de la fonction originelle de la Constitution dans son lien avec la propriété et les libertés économiques. Alors, ça pourrait même être plus général, puisque certains soutiennent que le droit tout entier est lié à la question économique. Et la Constitution en particulier, j'ai travaillé notamment sur un texte qui a été écrit aux États-Unis en 1913 et qui interprète la Constitution à partir de ses motivations économiques. Et c'est une thèse vraiment véritablement intéressante d'un auteur, un historien qui s'appelle Charles Beard. Et effectivement, on peut, en retraçant l'histoire de la naissance des premières constitutions et ensuite de l'évolution des constitutions, on peut tracer une sorte de coévolution, donc d'évolution simultanée, semblable en quelque sorte ou parallèle entre le développement du capitalisme et donc le développement du constitutionnalisme, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle le pouvoir doit s'exercer à travers une constitution. Donc c'est une thèse encore à développer. Ce qui est important de souligner, c'est que, mais dans tout cela, on a des écrits. On a des écrits qui disent des choses qui peuvent être en fait en quelque sorte rattrapées ou attrapées autrement que ce pourquoi elles ont été écrites, même si ça se discute en réalité. Mais c'est vraiment pour moi l'enjeu aujourd'hui de la Constitution de la Ve République. On a parlé donc de toute la question des dispositions sociales. C'est vrai, elles sont pratiquement de nul effet. Elles sont pratiquement désactivées. Comment pouvoir les réactiver? C'est bien tout l'enjeu aujourd'hui. Comment activer, réactiver des dispositions sociales dans le texte constitutionnel alors, en contrariant ou non, et c'est bien la problématique, en contrariant ou non, toute la dimension liberté d'entreprise, libre concurrence, libre marché, qui est actuellement développé et survalorisé par le Conseil constitutionnel. Donc évidemment, de toute façon, je pense qu'il faudrait changer l'institution elle-même. Alors, est-ce qu'il faudrait changer ses missions? Je ne suis pas certaine, parce que toute la problématique, c'est justement, c'est pas au niveau de ses missions. La problématique, c'est au niveau de la manière dont elle exerce ses missions. Donc, il faut, à mon avis, changer le conseil en sens d'abord, il faudrait peut-être l'appeler autrement. Ce n'est pas un conseil. Il rend des décisions qui s'imposent à tous les pouvoirs publics. C'est inscrit dans l'article 62 comme n'importe quelle cour constitutionnelle ou suprême. Donc, il faudrait l'appeler peut-être tribunal ou cour. Je préfère le thème de cour que tribunal, d'ailleurs. Mais il faudrait prévoir d'autres conditions de recrutement, d'autres conditions de fonctionnement, changer le nombre de juges. 9 juges, c'est largement insuffisant. Il faudrait qu'ils soient accompagnés dans leur travail. Ils sont seuls aujourd'hui. Il faut comprendre que, par exemple, un ancien ministre qui n'a jamais mis le nez dans la Constitution, il doit se prononcer sur des lois sans bénéficier d'aucune assistance sur cette question, ou pratiquement aucune. Ce qui est une situation tout à fait singulière dans les pays occidentaux. La France est la seule à avoir cette situation.
D'ailleurs, tu le rappelles dans ton ouvrage, il y a la Cour des comptes.
Le Conseil d'État.
Le Conseil d'État et le conseil constitutionnel qui est le moins doté économiquement pour agir. Hein,
c'est ça.
Ou pour ne pas agir, justement.
Exactement.
Et puis, il y a aussi ce prétexte mis en avant pour cette réforme des retraites. C'est sur la demande faite de l'Europe aussi pour réviser cette retraite. Sauf que l'Europe ne parle que de recommandations, hein, c'est-à-dire sans aucune obligation, ce qui ne laisse pas, ce qui n'est pas entendu ici comme tel, hein, puisqu'on a l'impression que c'est irréversible et obligatoire.
Oui, ça c'est encore une autre question. Effectivement, il y a pas de. Alors, c'est la méthode. Bon, c'est la méthode européenne. Je ne vais pas m'étendre dessus. La méthode des instances européennes depuis quelques années, que de presser par recommandation les gouvernements à agir dans tel ou tel sens. On sait, par exemple, que un ancien gouverneur de la Banque centrale européenne a coécrit une lettre avec un ancien président de la Commission européenne, à un premier ministre en exercice d'un des pays européens, lui conseillant de faire telle ou telle réforme fiscale, telle ou telle réforme sociale, etc. Et que, peu importe le résultat des élections, ce qui compte, c'est que les choses soient faites comme les instances européennes le souhaitent. Bon, ça, c'est quelque chose de connu. À partir de là, effectivement, le gouvernement en France, par exemple, eh bien, fait ses choix. Il choisit une orientation, parce que c'est vrai, hein, certains soulignent qu'il s'est mis tout seul dans cette situation, il s'est fixé un objectif financier, et à partir de là, c'est coûte que coûte, il faut parvenir à cet objectif financier. On en revient à la logique purement comptable. La question, c'est pourquoi s'est-il fixé cet objectif? Est-ce que cet objectif est obligatoire? Et est-ce que c'est le seul moyen de remplir cet objectif? En réalité, pas du tout. Ce sont simplement des priorités qui sont établies, des choix qui sont faits dans les financements, à trouver les recettes ici, dépenser ici. Tout ça, ce sont des choix. Ça ne correspond à aucune espèce d'obligation. Après, voilà, le jeu politique consiste à taire ses choix et à faire comme si il y avait une obligation. Ça fait quand même pas mal d'années que ça dure. Alors, ça vaut pour tout le monde. Hein. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de discrimination en la matière depuis quelques années. Pratiquement toutes les lois sont présentées comme le résultat d'une sorte d'obligation irrépressible, taisant, on va dire, tous les choix qui sont derrière et appauvrissant donc considérablement le débat qui a lieu à propos de ces lois. Montesquieu se retournerait dans sa tombe.
Montesquieu, qui est pour toi une référence, hein, avec son esprit des lois.
À certains égards, c'est une œuvre qu'on ne lit pas assez, de mon point de vue, avec les lettres persanes d'ailleurs. Bon, Montesquieu s'y contredit beaucoup, hein, aussi, hein, dans ces deux œuvres.
Il est humain.
Il est humain, exactement. Mais c'est une œuvre qui ne se lit pas comme un prêt à consommer. C'est-à-dire que c'est beaucoup de tâtonnements, beaucoup de tergiversations, beaucoup de délibérations, de réflexions. Et en ce sens, je pense que c'est une œuvre importante qu'il faut compulser régulièrement, précisément pour dire que tout ça, ce sont des choix humains qui sont faits, qui ne peuvent jamais être universels, qu'il n'y a jamais de solution prête à l'emploi. Et en ce sens, oui, je crois qu'on gagnerait sans, encore une fois, j'idolâtre absolument pas Montesquieu. Je ne suis pas tout pour ce qu'il raconte. Quelquefois, il raconte des bêtises. Mais sa démarche, en réalité, sa démarche, est rare aujourd'hui.
Et c'est ce qui manque au Conseil constitutionnel, en quelque sorte. Ce tâtonnement, cette recherche de... pas d'une symbiose, mais comment dire, d'une légitimité, quelque part.
Oui, ça lui manque cruellement. Ça lui manque cruellement d'être dans la recherche, dans la réflexion. Ses décisions s'apparentent plutôt à des, je crois qu'on peut le dire, à des diktats. Il dit, ben, pourquoi la loi est contraire à la Constitution ? Eh bien, parce qu'elle est contraire, parce qu'elle dit ça. Donc, il reproduit l'énoncé de la loi, et il dit c'est contraire, ou ça n'est pas contraire à la Constitution. Donc, en effet, c'est une sorte de dénoncé autoritaire. Il faut se le tenir pour dit. Et il pense par là... Alors, certains pensent légitimement, hein, mais c'est dire le niveau de leur réflexion. Certains pensent légitimement que... Enfin, sincèrement, je vais dire plutôt que légitimement, pardon, certains conseillers pensent sincèrement que cette manière de faire a un très gros avantage, c'est de ne pas pouvoir faire peser de doutes légitimes sur la justice qui est rendue. Là où il me semble que c'est exactement le contraire qui est en train de se produire.
Laureline Fontaine, merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné du temps sur cette présentation donc de la Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel. Alors la préface est de Alain Supiot.
Donc Alain Supiot, donc ancien professeur au Collège de France, qui était titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, et qui est donc une référence en France et même dans le monde sur la question du droit social et des droits humains, donc m'a fait l'honneur de cette préface. Et je reprécise donc que je serai à la librairie Mosaïque samedi prochain à 18h pour répondre un peu comme je l'ai fait aujourd'hui, hein, aux questions qui me seront posées. Voilà. Et puis, comme il se doit, évidemment, je précise que cet ouvrage, paru le 3 mars dernier, eh bien, est en vente actuellement à la librairie.
Et rappelez aussi ton site internet.
Oui, www.ledroitdelafontaine.fr, donc tout attaché, LEDROIT. De lafontaine.fr, où je présente, on va dire, un peu toutes mes réflexions, les articles que je publie, aussi des vidéos. Et il y a une page sur le livre que j'essaie de tenir à jour, où j'indique aussi où on parle de ce livre dans les médias. Voilà.
Bonne soirée.
Bonne soirée, Yves.
Au revoir. Thank you.